Merci mon Dieu pour le fait que tu sois là à notre écoute et je te remets ce matin notre frère Raphaël. Je sais que tu connais le cœur de cet homme, je sais que tu connais sa vie et je te le remets ce matin et je te remercie par avance mon Dieu parce que je sais que eh bien sa vie est entre tes mains et c'est toi qui décides de tout. Et je te remercie par avance surtout de le soulager de ses souffrances et de permettre, Seigneur, eh bien, qu'il soit fortifié et qu'il puisse vraiment être dans tes bras ce matin. Je te le remets afin que toute souffrance vraiment quitte ce corps, qu'il soit délivré au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de fortifier aussi son épouse, de permettre aussi que dans ces moments difficiles, eh bien, elle puisse aussi s'appuyer sur toi. Je sais qu'elle le fait. Et je te remets aussi tous ces enfants afin qu'ils aient la crainte de ton nom. Merci Seigneur pour cela, Jésus. Merci Jésus. Amen.
Père et sœurs, oui, hier, notre frère Francis m'a téléphoné et il m'a dit qu'il a emmené Raphaël à l'hôpital et il faisait un manque d'oxygène, ils ont regardé comment ça se passait. En fait, ils voient que tous ses poumons sont pris. Et voilà, quoi, c'est un cancer. Ça fait déjà longtemps, mais il y avait eu une rémission. Et maintenant, ça a l'air d'avoir pris vraiment de l'importance. Et à moins d'un miracle, eh bien voilà, notre frère Raphaël, il faut vraiment un miracle de Dieu. Vous savez, ça m'a tellement choqué. Je suis resté à mon bureau. Le regard bête. Et puis, après, je suis rentré au château. C'était le moment de rentrer. Et je regardais mon petit-fils. Je ne me souvenais même pas de son prénom. J'étais choqué. Et il a fallu qu'on me dise. J'ai dit, mais comment il s'appelle? Et puis, après, je voulais aller sur mon ordinateur. Impossible de me souvenir de mon code. Impossible. Il y a une partie de ma mémoire, vous savez, dans les chocs. Et là, c'est quelque chose qui me choque profondément. Avec Michou, on va aller le voir cet après-midi à l'hôpital. Et voilà, je demande toutes vos prières pour Raphaël et pour que Violette aussi soit soutenue. On ne sait pas s'il va rester avec nous ou s'il va partir. Hein, avec Raphaël, il y avait des fois des surprises. Hein, déjà l'année passée, Camélia, c'était la même chose aussi. Elle nous faisait des surprises comme ça, on avait peur. Et puis tout d'un coup, elle repartait de nouveau. Voilà, c'est des gens qui ont été élevés tellement à la dure, qui ont vécu tellement d'une façon dure, qu'ils ont une capacité de se redresser. Mais là, il a quand même 82 ans, hein, le petit Raphaël, mon Dieu. Alors voilà, je vous demande de prier pour lui. C'est quand même l'homme qui m'a amené à Dieu, ça me bouleverse. Donc j'avais préparé un message hier, et j'essayais de réfléchir. J'étais étendu dans mon lit ce matin, j'ai eu Mark Ingold qui m'a réveillé pour me dire une ânerie. Alors mon téléphone avait tout, tout, ça m'a réveillé. Et tout de suite, j'ai pensé à Raphaël, et tout de suite, j'ai pensé après à ma prédication, mais je ne me rappelais plus ce que j'avais préparé. Mais c'est fou quand même. Et alors, j'ai retrouvé mes notes, là, bon, j'ai retrouvé mes notes, mais voilà, c'est drôle comme on est fragile quand même. Enfin, moi, je suis fragile, du moins, dans la tête, il n'y a pas grand-chose, hein, donc. Donc voilà, priez aussi pour moi que je retrouve mes capacités, parce que là, je me sens bon, un peu amoindri. On va lire Apocalypse chapitre 1, versets 4-6. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant le trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est un peu la suite de ce que j'ai prêché vendredi. Le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, c'est l'événement le plus marquant de tout ce qui s'est passé dans l'histoire sur cette terre. Faites depuis le matin de la création, même avant Genèse chapitre 1, verset 2, déjà au chapitre 1, verset 1, des milliers, des milliards d'années. L'événement le plus marquant, c'est quand Jésus était sur la croix. Ce sacrifice, le sacrifice de Jésus, est au centre du message de tous les prophètes. Ce sacrifice a été préfiguré par des sacrifices d'animaux que la loi de Moïse prescrivait, vous savez ce que cela veut dire. Et tout le sens de ces sacrifices réside dans le fait qu'ils annonçaient le grand, le dernier sacrifice, celui de Dieu venu en chair. C'était Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu venu en chair. Jésus-Christ a enduré une souffrance incompréhensible. Vous me direz, mais beaucoup de gens sont morts sur des croix à cette époque-là, oui. Mais lui, il s'est chargé de nos péchés. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut être. Il s'est offert en sacrifice pour le péché de chacun de nous. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas imaginer quelle souffrance c'était pour lui. Et son sacrifice nous offre le bien absolu, la vie éternelle. Lui, il était véritablement l'agneau qui était pur, cet agneau qui était sans défaut, qui était offert pour la mesure de l'absolu du mal. Il était offert afin que cette faute, que cette tâche, que cette horreur soit effacée. Ce sacrifice, l'expiation de Jésus-Christ, est au centre du plan du salut. Si on n'a pas compris ça, on n'est pas chrétien. Après, on peut avoir des doctrines comme ci, des doctrines comme ça. Bon, les protestants n'ont d'autres que les évangéliques, qui parmi eux sont aussi très différents les uns des autres. Mais le centre de la foi, c'est ce que Jésus a fait et a accompli à la croix. Mes frères et sœurs, la souffrance de Jésus-Christ a mis fin au sacrifice par effusion de sang. Mais il n'a pas mis fin à l'importance du sacrifice dans le plan de l'évangile, de la bonne nouvelle. Jésus, il est le sauveur du monde, et nous sommes dans ce monde, nous avons donc un sauveur, il est notre sauveur, et nous l'avons reçu d'une façon personnelle, nous l'avons reçu parce que nous avons été choisis, parce que nous avons été élus, il nous a appelés, nous avons répondu à son appel. Maintenant, nous savons qu'il s'est fait un nouveau corps. Il est venu premièrement dans un corps semblable au nôtre, mais il est maintenant dans un autre corps qui est l'Église. Ça, c'est ce que je vous enseignais vendredi, son Église. Et l'Évangile fait connaître, quand je dis l'Évangile, c'est la Bible. Les Écritures inspirées font connaître, n'est-ce pas, au nouveau corps de Christ que nous sommes, à son Église, que nous avons à continuer d'offrir des sacrifices. Alors vous allez dire, mais tu te contredis, tu viens de dire que Jésus-Christ, son sacrifice expiatoire, a mis un terme au sacrifice sanglant. Oui, et ce qu'il commande maintenant, c'est que nous offrions à Dieu, en sacrifice, un cœur brisé, un cœur contrit. Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Hein, on vient de le lire, on est des sacrificateurs. Et c'est nous-mêmes que nous sacrifions. Sacrifie personne, hein. Sinon nous-mêmes, notre égoïsme. C'est seulement avec un cœur brisé que nous pouvons nous aimer les uns les autres. Parce que sans avoir un esprit brisé, un cœur brisé, hein, voilà, c'est vite vu. Hein, on est tellement différents les uns des autres, on a tellement que ça tient. Oui, un moment, je t'aime de l'amour du Seigneur. Hein, voilà, à l'église, on se tape sur l'épaule. Mais dans la vie réelle, hein, un cœur brisé. C'est seulement avec un esprit contrit que nous pouvons nous servir les uns les autres. Parce qu'il y a toujours la chair qui dit « Oui, mais enfin, t'es le seul à faire ci, t'es le seul à faire ça, les autres, ils font pas, etc. etc. » Et alors, s'il faut un esprit brisé, un esprit contrit, c'est un esprit qui est conscient de ses propres fautes et de ses faiblesses. Vous me direz « Oui, mais Jésus a porté nos fautes. » Oui, d'accord. Mais nous avons conscience quand même qu'il a porté nos fautes, il a porté nos péchés, c'est vrai, mais nous avons encore bien des faiblesses, bien des difficultés, bien des incapacités. Et puis si moi j'en ai, ben je peux comprendre que vous aussi vous en avez, et vous devez aussi comprendre que moi j'en ai, et alors c'est avec un esprit contrit qu'on peut vivre cela ensemble comme un véritable corps. Notre sacrifice, celui que Dieu demande de nous, c'est celui de notre priorité, de nos priorités égoïstes. C'est celui surtout de notre temps. Alors le temps, ça c'est quelque chose de terrible, sacrifier notre temps. Alors il y a des sacrifices qu'on est obligé de faire.
En fait, que tout le monde fait, même des païens font des sacrifices que nous devons faire pour avoir un avantage personnel. Et puis aussi, on se sacrifie pour nos enfants. Enfin, tout ça, c'est des choses normales. Mais ce n'est pas de cela dont Jésus parle. Tout le monde fait des sacrifices de cette manière-là. Mais c'est aussi quand même aussi un petit peu par égoïsme. C'est vrai, on veut que nos enfants soient comme ci, soient comme ça, ça nous donne encore une fierté et tout. Il n'y a rien à faire, c'est quand même toujours un peu entaché d'injustice, tous nos bons sacrifices que nous faisons. C'est pas ça, c'est pas de ça dont Jésus parle. Ça c'est normal, hein? Mais c'est pas ça dont Jésus parle. Vous savez très bien que l'histoire du christianisme, elle est marquée par les sacrifices et même par des sacrifices suprêmes, des gens qui sont vraiment morts. Au début de l'ère chrétienne, des milliers ont connu véritablement le martyre pour leur foi en Jésus-Christ, et tout au long des siècles, ça a été comme ça, ça a toujours été comme ça. Souvenez-vous, par exemple, pas loin en arrière, ici en France, de nos ancêtres, les protestants, massacrés par les catholiques, faut le dire, c'est quand même, ils ont sacrifié leur vie, ils ont donné leur vie. Et de nos jours, nous avons des frères et sœurs massacrés dans les pays communistes et dans les pays islamistes fanatiques. C'est une réalité. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, il faut absolument que vous la voyez avant qu'elle soit interdite, de ce chrétien, un frère, un de nos frères, qui se fait trancher la tête en direct, et ça a passé à la télévision en Égypte, parce qu'il a été jugé infidèle, n'est-ce pas, à Allah, parce qu'il s'est converti, n'est-ce pas, au christianisme, et il est là, il est tenu par un type en cagoulé, parce qu'évidemment, ils n'ont même pas le courage de montrer leur tronche de veau, de porc. Il tient cet homme et il lui tranche la gorge en récitant « Quelle horreur! Mais c'est bientôt fini, Jésus revient. Amen. C'est bientôt fini. Et ça existe, c'est comme ça. Aujourd'hui en France, alors assez moindre, mais vous avez quand même beaucoup de chrétiens qui persécutent d'autres chrétiens à cause de leur doctrine, qui font des pressions. Alors comme ils ne peuvent pas nous tuer, ils ne peuvent pas nous égorger, bon, parce que ça ne se fait pas, hein, ils n'ont plus. Autrefois, au moins, ils avaient, excusez-moi, non, je ne vais pas le dire parce que c'est grossier, mais ils en avaient, quoi, ils osaient le faire. Maintenant, ils n'osent même plus, bande d'efféminés, donc ils ne nous tuent pas. Mais par contre, ils nous poussent au découragement, ils nous poussent au désespoir. Voilà, tous ceux qui ne sont pas comme eux, eh bien, on est rejetés. C'est une forme de persécution aussi. C'est une forme de persécution. Il faut pardonner, c'est des pauvres gens, des pauvres gens. Mais c'est comme ça. Et puis, vous avez tous ces missionnaires qui ont sacrifié leur vie pour servir Jésus dans les endroits les plus ténébreux de la terre, qui vont dans des endroits... Bon, moi, je vais 3-4 fois par an, un mois, comme ça. Mais je sais que je vais revenir. Il y en a qui restent. Hein. Papa William Moore, il reste. Mon Dieu, je ne sais pas comment il fait. Tous ces sacrifices ne sont pas demandés, évidemment, à tous les fidèles. Parce qu'on est des membres du corps de Christ et tous les membres n'ont pas la même fonction. Pour la plupart des disciples de Jésus, le sacrifice implique ce que nous devons faire au quotidien. Mais il faut quand même prendre la mesure entre quelqu'un qui donne sa vie égorgée et quelqu'un qui dit « Oh, c'est encore à moi de faire la vaisselle !» Vous voyez, il faut prendre la mesure. Dans notre vie ordinaire, nous sommes appelés à sacrifier notre égoïsme, à sacrifier. Et mes frères et sœurs de la communauté, vos sacrifices contrastent avec la recherche matérialiste habituelle des satisfactions personnelles des chrétiens, il faut bien le dire. Il faut bien le dire. Et la force la plus visible, je crois, de notre communauté, c'est le service désintéressé, le sacrifice de ses membres. Quelques pasteurs ont été étonnés, voire choqués, parce que dans notre chapelle, on n'a pas la croix qui est le symbole le plus courant dans les milieux chrétiens. Ils ont été choqués. Alors je dis que chez nous, le symbole de la foi chrétienne, c'est la vie des membres du corps de Christ. C'est notre vie. C'est le renoncement de notre vie. C'est ça le symbole. C'est ça le symbole. Notre vie de service, notre vie de sacrifice, il est véritablement, mes frères et sœurs, l'expression la plus juste de notre engagement à servir Jésus-Christ et aussi les autres, ceux de la communauté, mais aussi ceux du dehors. Ceux du dehors. Rien ne pourrait être fait sans tous ces sacrifices. Rien. Vous vous rendez compte? Aucune conversion. Il n'y aurait pas de conversion. Toutes ces milliers de personnes que nous avons vues se convertir, qui sont maintenant dans les églises, ne seraient pas converties s'il n'y avait pas eu les sacrifices que vous faites. Aucune guérison miracle. Aucune guérison miracle. Toutes ces des centaines, des milliers de guérisons ont eu lieu lors de nos réunions, particulièrement en Afrique. Aucune n'aurait existé si vous n'aviez pas fait des sacrifices. Aucun exorcisme. Aucun village nourri. Et combien nous en avons nourri et combien nous en nourrissons encore. Aucune entreprise financière n'aurait été créée. Aucun orphelin, aucun orphelinat recevant des enfants. Nicolas a monté un orphelinat. Ce n'est pas avec notre argent. Mais au départ, c'est nous qui avons inspiré. C'est nous. Il le dit. C'est pour ça que j'ose le dire aussi. Aucune aide à qui que ce soit. Aucun puits en Afrique, par exemple. Tout ça, etc., etc. On pourrait en dire. Rien de tout ça n'existerait si les membres du corps de Christ de la communauté ne sacrifiaient pas ses désirs, leurs désirs égoïstes. Pensez à tous ces aveugles qui seraient encore dans le noir si vous n'aviez pas fait des sacrifices. Moi, je vous dis ça pour vous encourager, parce que c'est vrai que des fois, on est là, puis bon, c'est un peu la routine. Mais ce que vous avez fait, c'est pas rien. Aujourd'hui, il y a des gens qui voient le soleil, qui voient leurs enfants, qui voient la nature, qui voient les belles choses, parce que vous avez permis qu'on puisse aller apporter le don de guérison là-bas. Combien de paralytiques se traîneraient encore dans leur chaise roulante ou alors avec des béquilles si vous n'aviez pas soutenu ce ministère de guérison miracle. Tout ça, ça vous est compté à justice, mes frères et sœurs. Vos sacrifices, ils ont été transformés en miracle de guérison physique, en miracle de guérison mentale. Là-bas, en Afrique, il y a des ministères, il y a des pasteurs pour les fous, comme ils disent. Mais je n'ai vu plusieurs être délivrés comme ça. Tous ces sacrifices ont été transformés en entreprises qui nourrissent des centaines de personnes. Regardez dans l'église de Nicolas. Qu'est-ce qu'il y a eu comme sacrifice? Presque rien. Mais ça a été quand même fait. Et puis ça a été une semence qui a grandi et maintenant qui est très importante. Ou Bukari Kwadima, avec son école, qui maintenant chaque année fait sortir à peu près 80-90 personnes qui ont un travail. Ils se sont formés en holding. C'est quelque chose d'immense, reconnu par l'État, avec une reconnaissance. Ça vient des sacrifices. Ça a l'air de rien du tout. Quand vous mettez pour le Seigneur, comme on dit, on ne pense pas, mais pensez-y. Vos sacrifices ont été transformés en milliers de nouvelles naissances. Comment ces gens auraient-ils pu entendre l'évangile restauré si vous n'aviez pas soutenu le ministère d'évangéliste? Dieu en aurait choisi d'autres. Ouais, ben ça aurait été bien dommage. C'est mieux quand même que ce soit nous, non? Voilà. Toutes ces actions humanitaires n'ont été possibles que grâce à vos sacrifices. Parce que tout cet argent, vous auriez pu le garder pour vous payer des belles choses, des beaux trucs, un bel appartement, je sais quoi. Est-ce que j'ai fait pression sur vous? Ou un peu? Mais je n'ai pas eu besoin de faire beaucoup. C'est le Saint-Esprit qui vous a rendu intelligent. Et vous avez compris que le Seigneur a fait tellement pour nous que c'est un honneur de faire des sacrifices pour le faire connaître aux gens et surtout aux plus pauvres. Amen! Même notre frère Franck qui a joué ce matin là, il serait pas là s'il n'y avait pas eu des sacrifices au départ, parce que le Burkina, ça serait resté un grand mystère pour notre frère Colero. Il n'aurait jamais mis les pieds. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, voilà, comme ça. Donc vous voyez toutes ces choses, ça a l'air de rien, on est là, c'est bien, voilà. Mais il faut penser tout ça, c'est toutes vos heures de travail, tout ce que vous avez fait là, chaque fois que vous vous êtes coincé les doigts dans la machine, chaque fois que vous avez dû vous lever le matin, puis qu'il pleuvait, puis qu'il faisait froid, puis que vous, après vous avez donné à l'œuvre de Dieu, tout ça, ça s'est transformé en bonheur, en joie, en miracle. C'est magnifique. Frères et sœurs, il a tellement fait pour nous. Et c'est un honneur pour nous de faire des sacrifices comme ça, surtout pour les plus pauvres. Jésus a souffert pour nos péchés. Il est mort. Il a surmonté la mort pour que nous puissions vivre. Alors maintenant, nous voulons transmettre cette compréhension qu'il nous a donnée. Nous voulons la transmettre. En tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai qu'on s'attend beaucoup à ce que Dieu nous donne ce qu'on lui demande, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un équilibre. Dieu nous demande aussi des choses. Et il s'attend, je ne vais pas dire qu'il s'attend, parce que ça fait, on dirait que je dis Satan, c'est affreux. Je veux dire que Dieu attend de nous que nous lui donnions ce qu'il nous a demandé. Vous voyez, c'est un équilibre. Nous lui demandons des trucs, mais lui nous demande des trucs aussi. Alors des fois, on dit, mais tu ne m'as pas exaucé. Puis lui te dit, mais toi non plus. Vous voyez, mes frères et sœurs, il nous demande des sacrifices. Sacrifier notre égoïsme, notre moi sur l'autel. Et nous le faisons parce que l'évangile est vrai et qu'il a été confirmé dans notre communauté. La lettre aux Hébreux parle de sacrifice de louange. Alors c'est vrai que, moi je vous dis toujours, la louange c'est faire des bonnes œuvres. Ça loue le Seigneur, c'est vrai. Mais Paul quand même, il précise, il dit, c'est-à-dire de lèvres qui confessent son nom. Vous trouvez ça dans Hébreux 13, 15. Et c'est vrai que quand nous ouvrons notre bouche et que nous louons le Seigneur à haute et intelligible voix, avec nos lèvres, notre langue, eh bien, c'est un sacrifice. Votre chair n'aime pas ça. Est-ce que votre chair aime ça? Non. Eh bien, sacrifiez votre chair sur l'autel pour offrir à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire de lèvres qui confessent son nom. Amen. Vous voyez la louange. Et plus loin, au verset suivant, il parle alors d'autres sacrifices. Il dit, il parle de bienfaisance, il parle de libéralité. Vous savez ce que c'est la libéralité, hein? Qui sont aussi des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Pas seulement le blablabla, hein? Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer? C'est bien, mais il faut aussi qu'il y ait la bienfaisance et la libéralité avec. Parce que sinon, il n'y a pas l'équilibre. C'est toujours l'équilibre avec Dieu. C'est pas que les actions, c'est aussi les paroles. C'est pas que les paroles, c'est aussi les actions. Amen. Alors, rien d'autre ne compte, en fait. Voilà l'esprit de sacrifice qui anime le vrai disciple de Jésus-Christ, la vraie église de Jésus-Christ, qui vit l'évangile rétabli. Voilà. Le sacrifice, c'est quelque chose qui est une partie intégrante de notre vie. Nous donnons notre vie. Je pensais, parce que là on a trouvé encore un autre filon pour avoir des noms, pour pouvoir faire tous les baptêmes pour les morts, ce sacrifice au baptistère. Combien de temps est donné, sacrifié, pour aider au rachat des morts chez nous? Combien de temps? Depuis 13 ans que Dieu nous a ouvert les yeux là-dessus, sur ce ministère si particulier, si décrié, eh bien des milliers d'heures ont été sacrifiées par beaucoup d'entre nous, dans cette communauté, pour répertorier les noms, pour répertorier les dates, afin qu'il ne puisse pas y avoir des doublons dans les noms. Il faut qu'il y ait un maximum d'identification pour saisir tout cela sur les ordinateurs, pour créer, n'est-ce pas, le logiciel. Il a fallu du temps, maintenant c'est fait. Et pour les cérémonies de baptême, combien d'heures sacrifiées? Des heures et des heures et des heures. Près de 70 millions de personnes ont ainsi été baptisés dans cette communauté. Nous avons été les substituts pour cela. J'expliquais cela à un ex-pasteur la semaine passée, et il me disait, oui, ah bon, ah oui, c'est formidable. Alors, bon, ah oui, vous faites baptiser pour les morts, mais vous faites comment? Ils n'ont même pas imaginé comment pratiquement ça peut se faire. Qu'il doit y avoir un substitut, qu'il doit y avoir un baptiseur, qu'il doit y avoir des témoins, comme pour un baptême normal. Ils n'ont tellement pas pensé à ça, tellement occulté la chose. Pourtant, cela est écrit, et Dieu nous a choisis parce qu'il a vu notre capacité de sacrifice. La vie éternelle, pour ceux qui recevront et qui croiront dans le séjour des morts, l'évangile qui leur est annoncé, selon 1 Pierre 4-6, eh bien c'est pour eux et pour nous, c'est un sacrifice de temps. Du temps qu'on pourrait faire, on pourrait aller faire d'autres choses à la place. Dieu n'oubliera pas votre travail. Il est écrit dans Apocalypse 14, 13, vos œuvres vous suivront. Amen. Amen. Dieu n'est pas injuste, Hébreux 6, 10, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Et puis, il y a tous les sacrifices faits pour que l'évangile soit prêché partout. Internet, combien d'heures passées à taper des textes, à arranger les textes, à faire le mieux possible pour que ça soit beau. Ce que Richie fait, c'est des heures, nous on ne voit pas. On clique, pouf, on tombe dessus, quand on n'a pas oublié son code. On tombe dessus, on trouve ça bien, et puis point, mais c'est des heures, il pourrait s'amuser à autre chose. Ben non. Et l'humanitaire, notre association, c'est faisable, a nourri des milliers de personnes, des milliers. Continue maintenant. Notre site est visité par des milliers de personnes. Vous croyez qu'ils viennent pourquoi? Parce qu'ils ont besoin. Et nous leur donnons ce dont ils ont besoin. Ça coûte quelque chose. Et mes frères et sœurs, sachant ce que Jésus, le Sauveur, a fait pour nous, comment il a souffert pour nos péchés, comment il a vaincu la mort pour que nous puissions vivre éternellement, on a le sentiment que c'est un honneur de faire les sacrifices qu'il nous demande. C'est un honneur. Je vous avoue que des fois c'est vrai, c'est barbant, c'est répétitif, ça peut être ennuyeux. Mais un sacrifice qui coûte rien, c'est pas un sacrifice, mes frères et sœurs. Amen. C'est vrai. Quel sacrifice? Ben, pas seulement des sacrifices d'argent, mais de temps, de temps. Et puis, ces sacrifices comprennent la perte aussi de beaucoup d'amis, de gens qui nous abandonnent parce qu'ils ne comprennent pas, qui nous laissent tomber, qui nous critiquent, qui nous jugent, et aussi des relations familiales, il y a des coupures dans les familles à cause du fait que nous suivons le Seigneur Jésus-Christ. Mais en fait, pour nous autres disciples de Jésus, rien d'autre ne compte que Jésus-Christ. Jésus-Christ. Aucun sacrifice n'est trop grand, aucun prix n'est trop élevé, aucun effort n'est trop pénible pour recevoir l'approbation de Dieu, parce que nous devons recevoir l'approbation de Dieu. On comprend vraiment cette parole de Jésus parce qu'on la vit. Quelle parole? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est pas un sacrifice, ça? Bien sûr. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Matthieu 16, 24, 25. En vivant la vie d'église comme elle était au début à Jérusalem, vous faites sacrifice de votre vie, le Seigneur vous voit. Et le Seigneur dit que lorsque vous faites des sacrifices de réputation, de temps, d'argent, les uns pour les autres, pour vos enfants, pour la terre de mission, etc., le Seigneur vous bénit. Vous allez me dire, c'est de l'égoïsme? Non. Il bénit. Qu'est-ce qu'il bénit, le Seigneur? Il vous bénit dans le sens que il vous donne de la force, il vous donne de l'argent, il vous donne tout ce dont vous avez besoin pour faire encore, pour vous sacrifier encore davantage. C'est ça. Mes frères et sœurs, continuez à rendre un service désintéressé. Continuez à faire des sacrifices en imitant Jésus. Continuez à suivre ses principes de l'Éternel. Continuez. Alors cela contribuera à votre formation, à votre qualification pour l'éternité. Vous êtes sauvés, oui, mais il y en a qui seront sauvés comme au travers du feu, c'est-à-dire ils vont arriver à poil, comme on dit. Sans rien. Tandis que ceux qui auront sacrifié beaucoup de choses sur cette terre, ils arriveront et leurs œuvres les suivront. Ils arriveront habillés. C'est quoi la robe blanche? C'est les œuvres justes des saints. Mes frères et sœurs, une religion qui n'exige pas le sacrifice de tout n'a pas le pouvoir de produire la foi. Réfléchissez à cette phrase. La religion qui n'exige pas le sacrifice de tout n'a pas le pouvoir de produire la foi qui est nécessaire à la vie et au salut. C'est par ce sacrifice, par le vôtre, que Dieu a décrété que vous pourrez atteindre la vie éternelle. Alors c'est vrai que Jésus a sacrifié sa vie et nous sommes appelés maintenant à sacrifier la nôtre. Par ce Jésus qui a sacrifié sa vie et qui a vaincu la mort, nous sommes appelés à sacrifier la nôtre pour vaincre la mort éternelle. Pour nous préparer une destinée éternelle dans le plan que Dieu nous offre. Et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ce n'est pas une question de race, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de sacrifice. Frères et sœurs, je sais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je sais que grâce à son sacrifice expiatoire, nous avons l'assurance d'accéder à l'immortalité. Mais nous sommes appelés à donner nos vies pour lui comme il le veut, lui. C'est à cause de moi, à cause de ce que j'ai dit, à cause des besoins de Dieu. Ce qu'il veut, tout ça c'est écrit dans la Bible. C'est pourquoi l'autre jour je vous disais, l'évangile est la Bible, est l'Église. Il y a les deux. Voilà ce que Dieu nous a laissé, l'évangile et l'Église. Au cours des âges de l'Église, beaucoup de choses ont été perdues. Et puis, depuis Luther, Dieu a envoyé des lumières, le salut par la foi, la sanctification, la plénitude de l'esprit, la vie abondante, la vie communautaire, le baptême à la place des morts, puis beaucoup d'autres choses encore. Il est notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur. Et on en témoigne véritablement au nom du Seigneur Jésus-Christ par nos paroles, sacrifices de nos lèvres, mais aussi par nos œuvres, sacrifices de temps, sacrifices d'argent, sacrifices d'égoïsme. Il doit y avoir l'équilibre. Il y a l'Église et l'Évangile. Il y a Jésus sacrifiant sa vie et nous sacrifiant la nôtre. Il doit y avoir le sacrifice des paroles et le sacrifice des actes. Il doit y avoir toujours les deux. C'est un équilibre. Mes frères et sœurs, votre vie de service, votre vie de sacrifice est véritablement l'expression la plus juste de votre engagement à servir Jésus-Christ et à servir vos semblables. Vie de sacrifice. Il ne faut pas se laisser décourager par l'esprit de mort qui est en train de régner dans ce monde depuis quelques années. Nous ne sommes pas de ce monde. Il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint prenne l'ascendant sur l'être vivant que nous sommes, c'est-à-dire sur notre âme. Notre âme, elle est un peu fofolle. Elle ne sait que ce qu'elle a appris. Notre esprit est au-dessus de tout ça. Et le Saint-Esprit est encore au-dessus de tout ça. Il faut que ça soit plongé dans le Saint-Esprit. Il faut que notre âme, cette fofolle, et notre esprit qui est un peu oublieux, qui a oublié même son passé éternel, il faut que tout cela soit plongé dans le Saint-Esprit. Vous savez, notre façon évangélique de parler, de nous exprimer, elle nous trompe facilement et souvent. On dit toujours, c'est Jésus notre Sauveur, et c'est vrai, il l'est. Il a donné sa vie, c'est vrai, en sacrifice, c'est vrai, pour que nous puissions être sauvés, c'est vrai. Mais le processus du salut, il ne s'arrête pas là. Il ne faut pas se laisser tromper par cet esprit évangélique qui dit « Je suis sauvé parce que Jésus est mon sauveur. » Et il n'y a rien à rajouter au salut que Jésus nous a offert. C'est une erreur. Jésus enseigne que si nous voulons sauver notre vie, nous la perdrons. Et que si nous la perdons à cause de lui, alors on la trouvera. Donc il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Il faut arrêter avec ce langage évangélique à deux balles. Si on sacrifie à cause de lui, par amour pour lui, on la trouvera. Matthieu 16, 25. Vous voyez que notre sacrifice, il est nécessaire. Il est nécessaire. Le sacrifice que nous faisons de notre vie montre la mesure de notre foi, de la foi que nous avons, parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Et les œuvres qui ne coûtent rien n'ont pas de valeur. Les œuvres qui ne coûtent rien n'ont pas de valeur. Si un milliardaire vous donne 100 000 francs, ça ne vaut rien aux yeux de Dieu parce que ça ne le prive pas. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus a parlé de la petite veuve qui a donné de son nécessaire. Certains seront sauvés comme au travers du feu, je vous disais ça tout à l'heure. Alors ne soyons pas de ceux-là. Veillons. Soyons de ceux qui se donnent vraiment sur l'autel. C'est vrai que c'est une image frappante, cette petite veuve que Jésus observait du coin de l'œil à la sortie du temple. Pour tous nos actes, pas seulement pour l'argent, mais pour tous nos actes, pour tous les dons de notre vie, elle a donné de son nécessaire. Les autres donnaient beaucoup plus qu'elle, mais aux yeux de Dieu, pipeau, parce que ce n'était pas de leur nécessaire. Dieu mesure, ça ne veut pas dire que c'était pipeau, parce que ce qu'il donne, c'est quand même génial, c'est super. Mais, celle qui a donné le plus, c'est celle qui a donné de son nécessaire. Elle avait donné trois fois rien, mais aux yeux de Dieu, c'était ça qui est important. Et ce qui est important, c'est ce qui se passe devant les yeux de Dieu, c'est le regard de Dieu qui est important, c'est pas notre petite comptabilité humaine qui est important. C'est notre vie, notre temps, ce qu'est notre ego, notre réputation aussi, que nous devons offrir en sacrifice. Elle a donné ce qui était nécessaire, ce qui lui était nécessaire. Dieu voit ça. Dieu bénit ça. Et Dieu n'oublie pas ça. Alors, pensez-y, comme dirait frère Osborne. Chaque fois qu'on le voit et qu'on parle avec lui, au moins 10 fois en 20 minutes, il dit, pensez-y. Il faut penser, il faut réfléchir à ces choses. Et faire le pacte avec nous-mêmes que nous allons encore nous offrir sur l'autel davantage pour glorifier le nom de Jésus et servir les autres, servir notre Dieu dignement. Et nous hériterons de la vie éternelle, pas simplement un petit strapontin au fond du ciel, mais une belle maison. Vous allez me dire, c'est égoïste. C'est égoïste dans l'esprit. C'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Ceux qui ne comprennent pas ça, c'est bien dommage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus, je te prie de nous aider à bien comprendre, à bien saisir et à mettre en pratique ces choses afin que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur Jésus, j'ai encore une pensée pour Raphaël, veuille le bénir ce matin, ainsi que Violette, bénis-les ces deux-là, bénis-les, tu vois tout ce qu'ils ont sacrifié pour toi, pour ton œuvre, pour ce que, tout ce qu'ils ont fait, Jésus, je sais que nous n'avons pas de mérite, mais Seigneur, tu n'es pas un Dieu oublieux, et je te remercie de les bénir en conséquence, que ton nom soit glorifié Jésus, Amen.